Bon bec. Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. Bon bec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose, depuis 2019, d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Claire Secordel, je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis flûtière. Mon métier consiste à fabriquer pour vous, artisanalement, des flûtes à bec de différentes esthétiques et de différents modèles. Et en plus de ça, je me suis donné une mission à laquelle je tiens tout particulièrement, celle de vous permettre de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux choyer vos flûtes. C'est pour cette raison que j'ai imaginé et créé Bon bec. En solo ou avec mes invités, dans des épisodes basés sur un mot-clé ou au travers de conversations inspirantes, je souhaite que vous puissiez trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec, et même encore plus loin. Bon bec sort tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr, ainsi que sur YouTube. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors, que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Bonjour chères auditrices et auditeurs, je me réjouis de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour une nouvelle saison d'épisodes de Bon bec. D'ailleurs, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, eh bien je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Et je suis ravie, mais vraiment ravie de partager avec vous dans ce premier épisode de l'année 2024 une conversation avec Laura Pock et Nathalie Houtman de l'ensemble belge Laterna Magica. On a enregistré cet épisode en octobre dernier à Nantes, au festival Les Polyfolies de la flûte à bec et son univers. Et d'ailleurs, je remercie l'association Recordara qui organise le festival pour la mise à disposition de la salle dans laquelle nous nous sommes installés. Alors je suis certaine que vous avez déjà vu et entendu Laura et Nathalie, certainement dans la version duo de l'ensemble Laterna Magica. Depuis quelques années, elle réalise des petites capsules vidéo qui mettent en valeur la flûte à bec et son répertoire dans un lieu patrimonial remarquable. Il s'agit de leur projet Flutes in Situ, que vous avez probablement déjà vu passer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais ce projet Flutes in Situ, ce n'est que l'une de leurs nombreuses activités. Elles sont inséparables dans la vie et dans la musique. Elles enseignent toutes les deux la flûte à bec au Conservatoire Royal de Bruxelles et elles se produisent en concert, en duo, en ensemble et ou avec des invités, en Europe et partout dans le monde, avec des programmes variés, inventifs et toujours mémorables. Par-dessus tout, elles se passionnent pour les voyages, pour les cultures et pour la transmission, qui sont les fondements de leur autre projet, Inspire the Flute, dans lequel elles vont à la rencontre de flûtistes à bec installés loin de nos frontières et dans des lieux plutôt inattendus. Et bien sûr, elles nous emmènent avec elles en vidéo. Je m'arrête là parce que je crois que vous commencez déjà à avoir une idée des thèmes de notre conversation. La formation du duo de flûte à bec et les répertoires qu'elles explorent, notamment par le biais de transcription, les voyages, l'ouverture aux cultures extra-européennes et à leur mode d'apprentissage et de transmission, l'influence des rencontres, l'amitié et le travail en duo. Je vous laisse découvrir ces deux musiciennes, chaleureuses, rayonnantes, passionnées et passionnantes. Très bonne écoute! Bonjour Nathalie, bonjour Laura.
Bonjour Claire.
Je regarde la bonne personne.
Excuse-moi, ça me fait déjà rire.
Bonjour Claire. Alors, bonjour Nathalie, bonjour Laura, en regardant les bonnes personnes. Toutes les deux, vous êtes le duo Laterna Magica. C'est notamment pour parler de ce projet que je vous ai proposé de me rejoindre sur cette conversation. Merci beaucoup d'avoir accepté.
Merci pour l'invitation.
Et avant de commencer, est-ce que vous voulez bien, ou plutôt pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter peut-être individuellement et puis ensuite présenter le duo ?
Est-ce que tu veux qu'on s'en présente juste notre nom ou un bout de notre parcours ?
Un petit peu de parcours.
Donc moi, je suis Laura, je suis flûtiste à bec, j'enseigne la flûte à bec en Académie de musique et au Conservatoire Royal de Bruxelles. Je joue également de la viole de gambe. J'ai rencontré Nathalie déjà quand on était enfant dans un orchestre de jeunes. Donc, on joue ensemble depuis plus de 35 ans. Mais je vais la laisser se présenter.
Alors, moi, c'est Nathalie. Je suis flûtiste à bec. Et j'ai commencé la musique quand j'avais 3 ans, par la flûte à bec. Et ensuite, j'ai fait du piano aussi, j'ai fait du violon. Et je me suis aussi très fort intéressée à la musique du monde. Et donc, j'ai appris quelques instruments. Il y a très longtemps, j'ai commencé à apprendre le bansuri. Ensuite, j'ai étudié la flûte chinoise avec François Picard à Paris et le shakuhachi avec Sozan Chiaki Karia à Paris aussi.
Et donc, le duo est né à la suite de vos études. Alors, on joue ensemble déjà, donc, comme je disais, depuis qu'on est adolescente, même enfant, parce qu'on jouait ensemble dans un orchestre d'adolescents. Et ensuite, après, on s'est retrouvés pendant nos études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et puis, on ne s'est plus jamais quitté et on ne se quitte jamais d'une semelle. Hein, donc, c'est les sœurs jumelles. Donc, c'est à la fin de nos études qu'on a décidé de faire notre ensemble, la Terna Magica. D'abord à quatre, avec Raphaël Collignon au clavecin, Bernard Voltech au violoncelle. Et quelques années après, on a aussi décidé de faire du duo de flûte à bec, rien qu'à nous deux.
Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais effectivement, la Terna Magica, c'est un ensemble. Et au sein de cet ensemble, il y a votre projet en duo, et qui est très intéressant pour nous, puisque c'est un duo de flûte à bec, qui est une formation, ou plutôt qui n'est pas du tout une formation courante, qu'on pourrait pensée peut-être limitée en termes de possibilités de répertoire et que ben, vous dépoussiérez sacrément. Alors, quels sont vos... Parlez-nous du duo, justement, des projets.
Alors, le duo est né il y a, je dirais, une quinzaine d'années quand une des personnes de l'ensemble du Quatuor a dit « Ah, mais non, moi j'arrête un petit peu, j'ai envie de faire autre chose. » Voilà. Et alors, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» On a envie de continuer à jouer ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'est dit, faisons du duo. Et là, on s'est mis d'abord à créer des spectacles pour enfants. On a créé un spectacle qui s'appelle Face à Face. Et puis, aussi, on est passionnés et on adore la transcription. Et l'idée derrière la transcription, c'est d'élargir le répertoire, c'est d'ouvrir, c'est d'aller plus loin que ce qui est là, c'est de sonder le répertoire. Alors, il faut dire qu'on adore Jean-Sébastien Bach et que c'est pas forcément le compositeur qui a écrit le plus pour flûte à bec. Et donc, avec ça, on s'est dit, faisons de la transcription. Voilà, c'est comme ça que je dirais le duo est né. Mais la principale, c'est qu'on a envie de jouer ensemble. Et après, en fait, les intuitions émergent. C'est toujours comme ça. Il y en a une qui a une idée, puis l'autre dit « Ok, comment on va faire ?» Et c'est très varié et ça vient comme une étincelle. C'est comme notre programme Orient-Occident. C'est venu comme une étincelle, ok. Et puis ça se construit au fil de l'année ou des années où un programme se construit. On rajoute un instrument, on rajoute une pièce, une transcription. On a autant transcrit de musique baroque que de musique du monde. Et là, je vais parler d'un troisième projet qui est notre projet Flûte in situ, qui est aussi un projet qui allie la musique avec des lieux qu'on appelle extraordinaires ou des lieux spéciaux. Et là-dedans, en fait, on ouvre le champ des possibles. Ça ne s'arrête plus du tout à la musique baroque. On regarde le lieu et on sent, tiens, qu'est-ce qui serait la musique la plus appropriée dans ce lieu-là? Ça peut être de la musique de film, ça peut être de la musique contemporaine, ça peut être de la musique ethnique.
Alors, du coup, on peut rester peut-être un petit peu sur ce projet Flûte in situ. Alors, l'idée a émergé. Comment? Qu'est-ce qui vous a donné?
Tout simplement pendant le confinement, évidemment, puisque comme tous les musiciens, nos concerts étaient à l'arrêt, les concerts, les tournées, tout ça, tous ces projets étaient à l'arrêt. Et donc, on s'était dit, est-ce qu'on ferait un concert en streaming, comme ça se faisait beaucoup pendant le confinement? Mais, personnellement, moi, j'aimais pas trop cette formule. Et puis, je sais plus comment, parce que les idées, ça fuse toujours dans nos têtes, et puis quelque chose se construit et émerge. Et donc, on a eu l'idée de ces petites capsules vidéo assez courtes où on joue juste un seul morceau, donc dans un lieu remarquable qu'on a choisi avec soin, et à la fin du morceau, et donc on joue soit à deux, soit avec des invités, hein, toutes sortes d'autres instruments. Et à la fin de la musique, il y a le gardien des lieux, comme on dit, qui présente l'endroit. Et pour nous, ça, c'est très, très chouette parce que donc on découvre aussi notre pays, la Belgique. Mais bon, il y a aussi une capsule qui a été tournée à Paris, au Phonomuseum. Ça, c'était très chouette aussi. Et puis deux capsules au Népal, lors d'un de nos voyages. Et donc, on espère que dans nos futurs voyages en Bolivie, en Inde, etc., on pourra aussi ramener des souvenirs sous forme de ces petites, comme des cartes postales sonores et visuelles.
Donc, il faut dire que ce sont des vidéos qu'on retrouve, qui sont disponibles sur YouTube, notamment
oui, sur notre chaîne.
Sur votre
flûte
chaîne.
In situ.
C'est ça.
Flûte au pluriel.
Et il y en a déjà une vingtaine, je crois. Hein. Il y en a quelques-unes.
Il y a une vingtaine.
Oui, c'est là, une vingtaine. Ouais. Et alors vraiment, vous arrivez avec ça à mettre en valeur à la fois l'instrument, le répertoire joué et le lieu. Et c'est vraiment un superbe, c'est un superbe projet.
Merci.
Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de succès.
Ben oui, on commence à trouver notre public. Ça nous fait toujours plaisir quand lors d'un concert ou quoi, ou comme là maintenant à ce salon ici au Polyfolie, on rencontre des gens qui ont découvert en fait nos capsules. Oui, ça nous fait très plaisir.
C'est vrai que c'est souvent par ça, j'ai l'impression qu'on vous découvre. En tout cas, les personnes avec qui j'ai échangé vous ont découvert par ce biais, et ensuite s'aperçoivent que il y a plein d'autres projets. Nathalie, tu parlais tout à l'heure des transcriptions et c'est un sujet que j'ai déjà aussi évoqué, tout ce qui est le terme, les arrangements, les transcriptions. Est-ce que tu peux ou est-ce que vous pouvez définir ce que c'est exactement une transcription et puis comment vous procédez pour réaliser vos propres transcriptions ? C'est plutôt toi, Nathalie, qui fait, Laura qui fait ou...
Elle en fait beaucoup. Moi, j'en ai fait beaucoup dans le passé. Enfin, c'est variable.
Oui, et
moi,
puis, de toute façon, même si j'ai fait une transcription, après, on la teste et on fait des modifications. Ben, on part d'œuvres qu'on a envie de jouer. Et puis...
Parce que c'est un exercice.
Réfléchir comment formuler.
Formuler, oui. Parfois, on transcrit, parfois c'est assez simple parce que il suffit d'adapter un peu comme Jean-Sébastien Bach fait lui-même. Donc, par exemple, pour notre précédent programme Mimesis, un programme tout à fait Bach, mais avec clavecin et violoncelle, eh bien, on s'est inspiré d'un exemple que Bach nous donne lui-même, qui est sa transcription pour deux traversos et basse continue d'une sonate préexistante, je pense que c'est dans cet ordre-là d'ailleurs, enfin, qui existe en tout cas dans une version pour viol de gambe et clavecin obligé. Et donc là, on a un très bon modèle. Et à partir de ça, on a commencé par transcrire d'autres sonates pour viol de gambe et clavecin obligé, puisqu'il y en a trois. On a fait les deux autres. Et puis, on a aussi transcrit des chorales pour orgue ou bien une sonate, c'est un peu le même modèle, une sonate pour violon et clavecin obligé. Donc, ça, c'est assez simple à faire, à vrai dire.
Puis on redistribue.
Redistribue. Ça, c'est vraiment.
Qui est écrit, redistribue les voix, et la voix de la main gauche devient la basse continue, quoi.
Mmh. Voilà, ouais. Trouver la bonne tonalité, faire quelques octaviations, ça, chaque flûtiste à bec le fait, c'est pas très, très compliqué. Après, on a eu un autre programme qui était un programme Händel où on a transcrit des airs d'opéra pour deux flûtes à bec et basse continue. Mais là aussi, il y a des exemples parce qu'il existe une version éditée chez Walsh, d'époque donc, pour deux flûtes à bec et basse continue. On a simplement pris d'autres opéras, choisi les airs qui nous plaisaient, vu lesquels se prêtaient à une transcription où les deux flûtes à bec auraient une importance presque égale. C'était assez simple aussi. Après, quand on fait des transcriptions pour le duo, et là, on a fait des transcriptions, par exemple, de pièces de Bach, de ces sonates pour violon seul, ou ces partitas pour violon seul, dont notamment la Chaconne. Bah, là, il y a un peu plus un travail d'harmonisation et d'écriture, puisque, évidemment, le violon peut faire des accords. Donc, parfois, l'harmonie nous est donnée par Bach et parfois, elle est sous-entendue et on doit la déduire nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment l'écriture d'une deuxième ligne. Et qu'est-ce qu'on en a fait d'autre? Oui, on transcrit aussi souvent du répertoire pour clavecin.
D'accord.
Par exemple, le rappel des oiseaux de Rameau. Ça, je mettrais aussi dans la catégorie assez facile à faire parce que généralement, l'une prend une main, l'autre main et le tour est joué.
Et en ce qui concerne les musiques peut-être extra-européennes,
oui. Alors c'est une autre paire de manches parce que ça nous demande de nous plonger un petit peu dans l'essence de la musique traditionnelle.
Parce que j'ai vu aussi, donc là, on est au Polyfolie à Nantes, organisé par Recordara. Vous avez joué votre programme Orient-Occident et vous avez montré une des pièces où vous aviez une partition japonaise, il me semble, donc avec une écriture qui nous est totalement étrangère. Et voilà, alors comment ça se passe quand on a ce matériel et qu'on veut retranscrire pour nous?
Dans le cadre de la musique japonaise, il y a quelque chose en même temps qui est
écrit, parce que c'est de la musique qu'on lit. Et en même temps, dans les longueurs qui sont écrites sur la partition, bah, y a un espace qui est relativement libre. Mais ça, ça nous demande à chaque musique qu'on va retranscrire, que ce soit Japon, que ce soit Chine, que ce soit Iran, de sentir comment est bâtie cette musique, comment est-ce que ça fonctionne. La musique chinoise est une musique qui est plus métrique, qui est plus cadrée, donc il y a vraiment une pulsation claire qui est là. La musique iranienne qu'on a retranscrite, là, c'est arriver à capter toutes les cellules, le matériau d'improvisation des musiciens et en faire nous-mêmes une forme d'improvisation.
Oui, parce que j'allais dire justement, c'est soit des traditions orales parfois, sans trace, soit très improvisées.
Exactement, oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, ça nous demande de plonger un tout petit peu dans la culture et de sentir comment la musique est construite. Voilà.
Et est-ce que vous-même, à partir maintenant de ces répertoires que vous connaissez bien, vous arrivez à improviser ou est-ce que vous passez toujours par la transcription, la partition écrite, même pour après s'en libérer une fois que c'est bien acquis
Par rapport à la musique du monde.
Oui, par rapport à la musique du monde.
Je pense qu'on est doucement capable d'improviser, mais on ne sera jamais ni iranien, ni... Ça passe par du mental, mine de rien.
Ouais, une culture vraiment très ancrée.
Il faudrait qu'on vive dans un pays au moins pendant 20 ans ou dans une tribu pendant 20 ans. C'est mon rêve, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, il y a un chemin. Il y a une rencontre qui se fait et un chemin. Et on essaye quand même de se rapprocher, de faire un effort. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous demande de nous étirer un petit peu, sortir de nos habitudes. Ça, c'est quelque chose qu'on adore, sortir de nos habitudes. Dès qu'on a un petit challenge qui nous demande de sortir de nos habitudes, il y a une excitation qui est là.
Et alors justement, ça nous fait une transition parfaite, parce que tu parlais des rencontres, et vous avez un autre beau projet avec en duo, qui est Inspires Flute, avec mon magnifique accent anglais. Vous pouvez nous parler de ce projet-là? Parce que rencontre, voyage...
C'est un projet qui nous tient énormément à cœur parce qu'il mixe la musique, le voyage et les rencontres avec des personnes, avec les rencontres humaines, les rencontres avec des musiciens. Et donc, c'est un projet de rencontre avec des flûtistes à bec ou des flûtistes, d'autres flûtistes du bout du monde, d'autres cultures, avec qui on peut aller faire de la musique, apprendre un peu de leur musique, partager nos musiques. Parfois, on part pour enseigner. Donc, c'est aussi en rapport avec la transmission. C'est aussi rencontrer des professeurs de flûte à bec d'autres endroits dans le monde et voir un peu comment eux, ils font. Et donc, on en a tiré de ces rencontres un premier documentaire il y a quelques années, il y a 4 ans, Souffle croisé, qu'on a tourné en Inde, à Pondichéry. Puis il y a un deuxième, l'année passée, on a tourné un deuxième documentaire au Népal, enfin cette année, et il est en cours de montage. On espère pouvoir bientôt le présenter. Et puis, dans les mois à venir, il y aura un voyage en Bolivie et une rencontre avec un groupe de musiciens de flûtistes à bec boliviens avec lesquels on va faire des concerts également.
C'est vrai qu'on ne le sait pas, on n'y pense pas forcément, mais la flûte à bec, c'est pas que ici, en Occident, c'est aussi partout dans le monde. Et puis ça reste un des instruments, je pense, les plus accessibles dans tous les sens du terme, même à des endroits où on a peu de place et d'espace pour la culture, pour la musique. Comment vous le vivez, vous, en allant sur place?
Ben, en fait, il y a quelque chose qui se met très vite en route quand on arrive quelque part, parce qu'on se met vite à jouer de la musique. Et à partir du moment où on se met à jouer de la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup plus que quand on est dans la parole. Et souvent, dans un projet, ben, le groupe joue, on joue, et puis il y a quelque chose qui se construit. C'est un peu comme une toile, en fait. Il y a quelque chose qui se construit, un programme qui se construit, des échanges qui se construisent. Ils nous apprennent des musiques de là-bas, nous, on leur transmet des choses de chez nous. Et il y a quelque chose de fondamentalement riche pour nous, c'est l'aspect humain. On revient en fait toujours transformé de nos voyages là-bas et on se rend compte qu'on s'est nourri énormément les uns les autres. En gros, c'est ça. C'est assez simple en fait.
Et est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué particulièrement au cours d'un voyage, une ou plusieurs? J'imagine qu'il peut y en avoir plusieurs. Tant de choses. Alors, un exemple.
Un souvenir qui me reste... Enfin, il y a tant de choses, mais je demandais à un de nos amis indiens flûtistes à bec, c'est quoi ton compositeur préféré? Et il me sort Buxtehude et Van Eyck. Mais même ici, les musiciens classiques, Buxtehude, oui, mais Van Eyck, tu parlais à un violoniste, il connaît même pas. Et je trouvais ça tellement marrant en Inde, où personne n'a jamais entendu parler de ces compositeurs-là, de savoir que quelqu'un chérit la musique de Buxtehude et de Van Eyck. Je trouvais ça vraiment marrant. Mais donc d'avoir cet instrument, la flûte à bec, qui nous relie, je trouve ça vraiment magnifique.
Et toi, Nathalie, t'as...
Alors moi, ce qui m'a toujours énormément touchée, et ça c'est partout, dans tous les voyages, c'est la notion de communauté. Quand on va en dehors de l'Europe, on est accueilli et on est pris en charge comme si on arrivait dans notre famille. Et ça, c'est chaque fois qu'on voyage, on se le dit, mais c'est incroyable. Et en fait, d'une certaine manière, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là dans nos pays. Et voilà, c'est souvent quand on retourne quelque part, on a l'impression qu'on retourne dans la famille. On se réunit tous, on se retrouve tous ensemble pendant 2 semaines et on est voilà, on est chouchoutés.
Et d'ailleurs, quand on part, on pleure. Hein,
parce que oui,
c'est un déchirement.
On est chouchoutés et en fait, cette notion de communauté, elle peut se retrouver aussi dans la transmission de la musique. C'est-à-dire que ça se fait très vite là-bas. On ne doit pas tellement intellectualiser. On doit voilà, on commence à jouer et puis c'est
Oui, parce que j'allais vous poser la question, justement, la transmission, comment ça se fait, comment ça se passe quand il y a la barrière de la langue, il y a un écart culturel important. Comment ils font, comment ça se passe quand vous arrivez quelque part et...
On n'a pas encore été arrêtés par la barrière de la langue, parce que...
L'anglais qui passait un peu partout. Oui,
oui. Oui puis après, dans la musique, tu n'as pas tellement besoin de parler. Hein. C'est la musique qui va devenir le langage commun.
Ça ne m'est pas toujours, parce que moi, je suis très partition. S'il n'y a pas de partition, je ne sais pas quoi faire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de musiciens ici. Et donc, ça me fascine absolument cette possibilité d'improviser ou de s'asseoir en rond et de commencer à jouer de la musique. C'est impressionnant, même à partir de rien ou de très peu. Tout ce que vous engrangez là comme expérience, comme connaissance, ce lien entre les différents instruments, les différentes cultures, comment vous l'utilisez dans votre enseignement à vous?
Alors, moi, toute la construction de mon enseignement part du fait que je me suis toujours sentie extrêmement décalée depuis que je suis toute petite, parce que j'ai toujours eu l'impression de me retrouver dans un monde d'intellect, alors que je suis quelqu'un d'hyper, hyper instinctif et intuitif. Donc, le fait de apprendre la flûte dans une école de musique, d'entrer dans un conservatoire, était pour moi une adaptation plutôt qu'une facilité. Et quand je me suis retrouvée après mes études, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas entre moi et ce monde-là. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais il faut que j'aille découvrir, il faut que j'aille voir ailleurs. Et j'ai commencé à partir en Inde pour aller découvrir la musique indienne. Et là, je me suis dit, ah, il y en a qui fonctionnent comme moi. C'est-à-dire, c'est une transmission orale. Donc, on est en face du prof et on répète.
Tu as appris en Inde la flûte bansuri?
Oui, mais alors ça, il y a très longtemps, parce que maintenant, j'en joue plus depuis très très longtemps. Mais ça a été ma première porte d'accès à quelque chose à travers lequel je me reconnaissais, pas fondamentalement la musique, parce que j'avais le gap de mon âge et du fait que je ne fais pas partie de cette culture, mais le mode de lien avec le son et la musique, pour moi, je le reconnaissais. Et du coup, ça m'a permis de créer en fait un pont entre l'Occident, qui a une manière très intellectuelle de fonctionner, et un mode beaucoup plus intuitif dans lequel je me reconnaissais moi. Et c'est pour ça qu'après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, j'ai envie de découvrir plein de cultures, avec une fascination de la transmission, justement, orale. Et aussi, c'est aller plus loin aussi j'ai continué cette recherche par rapport à tout ce qui est thérapeutique et guérison par le son. Parce que j'avais envie d'explorer en fait tout cet univers qui pour moi est relié entre autres par l'invisible, parce que la transmission orale se passe aussi beaucoup dans l'invisible. C'est une connaissance qui est éthérée, qui passe à travers nous, mais qui est éthérée. Et donc voilà, c'est comme ça chez moi que le chemin s'est fait. Et maintenant, disons que je passe de l'un à l'autre, tout en étant toujours plus à l'aise dans ce qui est intuitif, sans partition, et ce qui se met en place dans l'instant, dans le vivant.
Moi, je fonctionne différemment de Nathalie.
C'est ça qui est intéressant.
Oui,
aussi,
oui, juste là, on est très différentes et très complémentaires à la fois. Et on a aussi beaucoup de ressemblances. Donc, je ne suis pas vraiment une intuitive comme Nathalie. Mais par contre, j'aime bien utiliser dans mon enseignement l'apprentissage par l'oreille. Ça, c'est sûr. Oui. que ce soit avec les petits ou même avec des élèves qui savent déjà bien jouer.
Et toi, donc, tu joues de la viole aussi ?
Oui,
est-ce que il y a des ponts qui se font ? Est-ce que t'apportes mutuellement les deux instruments ?
Je pense que comme beaucoup de flûtistes à bec, on a souvent en manque de graves. Et donc, en fait, mon premier instrument, c'était le violoncelle. Et pendant toute mon adolescence, je jouais beaucoup des lignes de basse, des basses continues, puisque je faisais déjà pas mal de musique baroque. Et donc, bon, après, je me suis tournée vers la flûte à bec. Et d'abord, souvent, les flûtistes à bec ont envie de jouer d'un deuxième instrument. Ça, c'est très, très courant. Mais on peut être parfois en manque de basse et de lignes de basse. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi la viole de gambe et le violonnet, qui est donc la contrebasse des viols de gambe.
Et tu peux les utiliser dans vos programmes en duo ou en plus grande équipe.
Ça, rarement, mais dans d'autres groupes, je joue la viole, ouais.
J'ai un trio de questions qui se ressemblent.
Un trio de questions.
Alors, je vous dis les trois tout de suite, parce que c'est plus cohérent. C'est comment vous apprenez, comment vous travaillez et comment vous progressez. Alors, on peut en choisir une, on peut choisir les trois, on peut faire les trois en même temps. Ou pas si ça vous inspire pas.
Quand tu dis comment vous apprenez, c'est comment vous enseignez ou comment vous apprenez pour soi-même ?
Comment vous apprenez pour vous apprendre ?
Ouais. Très bonne question, Claire.
Flûte à bec, on est.
Oui. Ou après ça peut être comment vous apprenez en général. Hein.
Alors ça va être brainstorming. Hein. Pour moi, bon, je l'ai déjà évoqué un tout petit peu
oui,
avant.
T'en as un
peu
parlé.
Donc apprendre aujourd'hui, pour moi, c'est ouvrir les horizons. C'est-à-dire toujours aller sonder un peu plus loin. Oh, on entend une musique, ça c'est très bizarre. Comment Donc ça va être pour moi très fort lié au challenge du nouveau. Et bah, comment est-ce qu'on va plonger dans ce nouveau pour découvrir et pour se l'accaparer aujourd'hui et maintenant avec qui on est. La question du comment, bah, pour moi, c'est l'expérience. Il n'y a que l'expérience et plonger dans l'expérience qui fait que ben, les choses se mettent en place dans l'expérience et je reviens toujours avec le même mot, mais dans le vivant. Donc, le comment, c'est difficile parce qu'en fait, c'est au cas par cas.
Mais c'est par l'expérience.
C'est par l'expérience.
Ça répond tout à fait à la question.
Là,
je crois,
ouais. Pour le coup, on est toutes les deux dans la même. Dès qu'il y a un truc qui est un peu spécial, oh, chouette. Ça va être dur ou ça va être compliqué, mais on y va, quoi.
C'est l'enthousiasme aussi.
Oui.
Alors l'émerveillement.
Ouais.
Ouais.
Oui, et ça, ce qui est très chouette, c'est qu'on a la même manière de fonctionner parce qu'on a pu déjà travailler avec d'autres personnes et ça va être « ou non ». Et alors, en fait, du coup, ça retombe. Mais ici, il n'y a jamais de « ou non ». Ça va être toujours « ah ouais, t'es sûre quand même ?» Et puis, allez, bon.
Essayons, ouais. On se challenge beaucoup l'une l'autre. On est chacune une espèce de motivation pour.
Et alors, est-ce qu'il y en a une autre des deux qui vous inspire ? Comment vous travaillez ? Comment vous progressez ?
Comment nous travaillons ? Comment on travaille le duo, elle rit parce que je suis sûre qu'elle est en train de nous imaginer dans notre chambre d'hôtel couchée sur notre lit quand on est en tournée. On aime beaucoup travailler couchée dans un lit. Je te dis pas la
couché
position, quoi. Il faut pas dire ça aux élèves. Il faut pas dire
gare.
Aux élèves.
Alors, il y a plein de manières de travailler.
On pourrait travailler
parce que ça peut être dans notre lit comme
dans
ça,
la
on
voiture.
Est avec un jet lag pas possible. Bon, hein. Mais alors, on peut aussi. Là, par exemple, en venant à Nantes, ici au Polyfolie, on a chanté à tutu, parce qu'on joue tout par cœur. Et donc, pour le programme de ce soir, Jean-Sébastien Bach, il y a des pièces qui sont très, très neuves. Et donc, on les chantait avec les deux voix. Et donc, on a chanté à tue-tête pendant toute la...
Ça, c'est quand on travaille oralement. Hein. Donc, il y a moyen de travailler sa flûte.
N'importe où, n'importe quand.
Mentalement, on peut travailler beaucoup mentalement, mais aussi oralement.
Oralement.
On peut faire parfois des répètes orales.
Alors, ce qui est aussi très, très marrant, et ça, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a une manière très différente d'apprendre par cœur. Laura, elle a besoin de visualiser la partition et l'harmonie.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis un peu toujours dans l'analyse harmonique.
Voilà. Et moi, ça vient comme ça vient. Et alors, du coup, quand on se plante, etc., la manière de l'autre ne va absolument pas aider
ouais.
L'autre.
Mais oui.
Allez, tu sens quand même.
Oui, non, oui. Moi, je dis, on apprend à la modulation en si mineur.
Donc,
il y a plein de manières, en fait.
En toutes circonstances.
Il y a plein de manières, oui. Encore une fois, c'est... Alors, on travaille aussi avec l'accordeur. Ça, oui.
Ah. Ah, ça, on est toutes les deux fans du métronome et de l'accordeur.
Non, l'accordeur, la métronome, ça, c'est pas
ah,
moi, c'est
moi,
toi.
J'aime bien.
Moi, j'aime pas. Métronome,
moi, j'adore.
Mais l'accordeur, on travaille avec l'accordeur.
Oui.
Et comment vous progressez ? Oh, je crois qu'on l'a déjà dit, en fait, c'est l'ensemble de tout. C'est le travail et l'expérience.
Et se planter planter quelquefois.
Oui, et mettre de la conscience sur tout ce qu'on a vécu. Mettre de la conscience, et à force de mettre de la conscience, bien, on ne revient pas dans les mêmes carcans, en fait. Ça ouvre de plus en plus notre champ des possibles et oui, ça devient un édifice plus vaste, quoi.
J'ai une petite série de questions. Peut-être qu'on va...
À laquelle c'est plus un trio, cette fois-ci.
On va répondre.
C'est à quoi tu as.
Mais on va essayer d'avoir des réponses plus courtes. Comme ça conclut, le podcast. Est-ce que vous avez rencontré une situation ou une difficulté qui a été vraiment une difficulté que vous avez pu surmonter et de laquelle vous avez grandi, appris quelque chose, retenu?
Donner des conférences en anglais, ça a été notre challenge il y a quelques mois quand on a fait une petite tournée en Azerbaïdjan. On a dû faire des masterclass en anglais, donc on a dû se challenger parce que là, on sortait un peu de notre zone de confort. Puis après, on était tellement fiers de nous-mêmes de l'avoir fait.
Et alors, en fait, j'ai quand même envie de nommer quelque chose parce que c'est vraiment très relatif à nous et notre fonctionnement, c'est qu'en fait, on est toutes les deux très désordonnées et on oublie tout le temps quelque chose. Et en fait, c'est comme ça depuis 20 ans. Mais il y a 20 ans, ça posait des problèmes chaque fois. On était dans le contrôle, au secours, comment on va faire? Maintenant, on oublie et en fait, c'est pas grave. On rebondit. Oh zut, aujourd'hui, c'est les chaussures. Oh zut, la flûte de voix. Ok, pas grave, on va faire...
Un bout de flûte.
Un bout de flûte. Hop, on va... Et en fait, tout est de plus en plus fluide. On apprend à... surfer
sur nos faiblesses.
Oui, mais c'est ça. C'est de moins en moins contrôlé.
Est-ce que vous avez reçu un grand enseignement? Une chose qui vous a particulièrement marqué?
Ah ben oui, évidemment. Notre professeur au conservatoire, Frédéric de Rose, c'est vraiment notre maître pour la flûte à bec. Oui. C'est vraiment un maître.
Ça, c'est vraiment une grande référence. Et pour moi, il y a vraiment la notion de lignée. Pour moi, on fait partie de sa lignée. Il y a une représentation... et aussi un respect.
Et comment vous la définissez alors, cette lignée? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
C'est une esthétique en fait. Tu me dis, moi, oui. Si... Je sens qu'on Alors, on a notre patte chacun, mais je sens vraiment qu'il y a une esthétique qui est basée sur... pour moi, sur une subtilité et finesse au niveau du son.
Oui, c'est la plasticité du son, le travail du son, ça c'est vraiment un axe majeur de son enseignement.
Qui vous a marqué?
Oui.
Qu'est-ce qui vous fascine, alors dans la flûte ou dans le monde, hein? Ça peut être très général.
Dans le monde?
Dans la générale.
Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, alors je vais parler vraiment dans la musique ou des musiciens, c'est quand une maîtrise est totalement intégrée à travers une personne. C'est-à-dire que je sens qu'il n'y a plus de résistance corporelle, physique, égotique, et qu'un maître ou qu'une personne est totalement dans un rayonnement de son art. Ça me fascine.
Oui, moi, oui, comme Nathalie, puis aussi les personnes qui ne connaissent pas de limites dans le sens de personnes qui peuvent déplacer des montagnes que rien n'arrête parce qu'ils ont cette énergie, comme une force, un vent qui les pousse dans le dos.
Où est-ce qu'on vous retrouve quand on veut avoir de vos nouvelles, vous écouter, vous voir, vous entendre? Donc, j'imagine les réseaux, tout ça. C'est le moment de promotion. Ben
on peut nous retrouver en février en Inde. Bienvenue. Et en avril en Bolivie.
Et entre-temps,
plus simplement peut-être sur YouTube, sur notre chaîne Flûte in Situ, qui est notre chaîne YouTube, ou bien sur le site de notre ensemble, laterna-magica. Voilà. Et alors, sinon, la chef des réseaux sociaux, c'est Nathalie.
D'accord. Donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux aussi.
Voilà. On essaye. Hein.
Et on va conclure parce que j'ai oublié de vous redemander l'origine de Laterna Magica. Alors, pour l'anecdote, nous en avons parlé avant.
Nous avons parlé de ça avant et nous t'avons demandé de ne pas poser cette question, Claire. Non, c'est parce que c'est très bête. Quand on a commencé à jouer vraiment en duo après nos études, on cherchait vite fait un nom, parce qu'on avait un concert qui arrivait, on trouvait pas, c'est pas vraiment notre fort de trouver des noms. On s'est dit, tiens, on va prendre un livre au hasard dans ma bibliothèque, les yeux fermés, on va pointer un livre et voir si ça nous donne de l'inspiration. Et on a pointé un livre de Ingmar Bergman, réalisateur suédois, qui s'appelle Laterna Magica. Et donc la lanterne magique, c'est cet objet ancêtre du cinéma, qui d'ailleurs date du 18e, et qui permettait de projeter des images. Et c'était un objet qui fascinait les gens, qui les émerveillait, donc voilà, qui projette de la lumière. Donc C'est pas si mal. Et puis en plus, c'est international comme nom.
Et il fallait absolument raconter cette anecdote.
Tu trouves, oui.
Je trouve. Oui, parce que le nom est magique et que ça colle
et
tellement bien.
Et la manière était magique, évidemment, oui.
Colle tellement bien à votre projet.
Si on avait projeté le livre « Comment élever son chat », on aurait peut-être pas pris ce livre-là. Ça tombait bien, oui.
Mais ça colle extrêmement bien à tous vos projets, donc voilà.
Ben merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci, Claire.
Et voilà pour cette conversation avec Nathalie Houtman et Laura Pock. Laura et Nathalie, merci encore d'avoir accepté mon invitation au micro de Bonbec et merci pour ce bon moment que nous avons passé ensemble. Alors j'espère que vous avez aimé les découvrir ou les écouter si vous connaissiez déjà leurs projets musicaux. Souvent on connaît les musiciens parce qu'on les entend en concert ou on écoute leurs enregistrements, mais on a rarement, trop rarement je trouve, l'occasion de les entendre prendre la parole. Et c'est ça que j'adore avec Bonbec et avec ce format podcast. En ce qui concerne Laura et Nathalie, je trouve tout particulièrement inspirante leur capacité à se laisser guider par l'intuition dont parlait Nathalie et par la créativité dans tous leurs projets. Et par cette capacité aussi à y allier la juste dose de passion et d'enthousiasme pour un résultat que je trouve toujours merveilleusement juste et authentique. Je vous laisse tous les liens dans les notes de l'épisode pour visiter le site de Laterna Magica et pour retrouver les vidéos des projets Flute in Situ et Inspire the Flute sur YouTube. Abonnez-vous à leur chaîne pour être notifié des prochaines sorties. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bonbec. Si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bonbec ou en me faisant un petit coucou en ligne. Je vous lis avec plaisir et reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Vous pouvez aussi vous abonner au mail de présentation que j'envoie à chaque nouvel épisode ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte qui vous donne un jeudi sur deux des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de Bonbec autour de vous et partager vos épisodes préférés. Les Bonbec, c'est fait pour ça. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bonbec et à très vite.